Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Noëlla Luzitu Kabambi.
Poursuite ce mardi des affrontements entre le M23 et les groupes armés locaux dans le groupement de Tongo, territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu. Ces combats durent depuis plusieurs jours dans cette zone occupée par le M23. Les items de l'examen d'État hors session sont déjà disponibles à Bukavu et à Goma. La session qui va démarrer le 2 juin prochain va se dérouler dans un contexte particulier pour le Nord Kivu et le Sud Kivu. Le général Evariste Kakule Somo, gouverneur du Nord Kivu, est notre invité. Il va revenir sur des avancées et des défis dans la traque des groupes armés locaux et étrangers dans l'est de la RDC. Bonjour à tous. Au Nord Kivu, les affrontements opposant le M23 aux groupes armés locaux se sont poursuivis ce mardi matin dans le groupement de Tongo, territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources locales, les combats se sont intensifiés dans les villages de Marangara et Rukarara, causant d'autres victimes parmi les civils. Ces affrontements durent depuis plusieurs jours déjà dans cette zone occupée par le M23, mais où opèrent sporadiquement une dizaine de groupes armés. Les détails avec vous, Gloria Lutula.
C'est depuis 5h du matin, ce mardi, que les détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans les deux villages du groupement Tongo, Marangara et Rukarara. Une ou deux heures après, les crépitements se sont étendus dans le village de Kabingu, aux alentours du chef-lieu du groupement voisin de Bambou, vers la lisière du parc national de Virunga, indiquent les sources des notabilités locales. Jusqu'au milieu de la journée, quelques tirs se faisaient encore entendre dans la zone, ce qui panique de plus en plus la population locale. Nos sources parlent d'au moins deux civils qui ont été blessés par des balles perdues, dont une fillette de 11 ans qui allait au champ avec sa famille sur l'axe Bambou-Kirumba. Ces combats surviennent après un autre affrontement rapporté hier lundi entre Bwalanda et Katwe en groupement Mutanda dans le même territoire de Rutshuru. Selon nos sources, c'est depuis jeudi 22 mai que des combats opposent presque chaque jour les rebelles M23 au groupe Wazalendo dans le groupement de Bambou, Tongo, Bukombo et Mutanda dans la chefferie de Bwito. Jusqu'à dimanche 25 mai dernier, nos sources rapportent un bilan d'au moins 14 civils tués, des dizaines d'autres blessés et plusieurs maisons incendiées dans ce combat. Les corps de ces victimes ont été découverts dans différents villages, entre autres Bambou et Kangado, en groupement de Bambou.
À Kinshasa, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CNSA interpelle le président de la République sur la nécessité de la cohésion et l'unité nationale. Dans une communication faite hier, le CNSA estime que comme représentant de l'État et de la nation et étant le symbole de l'unité nationale, seul Félix Tshisekedi peut prendre l'initiative de réunir le peuple dans un dialogue national entre Congolais dans des conditions acceptables par toutes les composantes. L'unité du pays, l'intégrité territoriale étant gravement compromise, il est temps d'agir pour sauver la nation en danger, selon le CNSA. Jeff Ngoy.
D'après le CNSA, l'aggravation des discours de haine provinciale, linguistique, ethnique et tribale et de stigmatisation mettent en péril notre grande richesse qu'est la diversité culturelle. Des fragmentations sociales, politiques et sécuritaires se font sentir sur l'ensemble du territoire national. Face à cette situation, le CNSA rappelle que la RDC est un pays qui a une longue tradition de dialogue héritée des ancêtres qui avaient l'habitude de résoudre leurs différends sous l'arbre à palabre. Il remonte dans l'histoire pour évoquer plusieurs rencontres dans ce sens, partant de la table ronde de Bruxelles en 1960, aux consultations nationales en 2000, au dialogue de la Cité de l'Union africaine et du Centre interdiocésain de 2016. Le linge sale se lave en famille, rappelle le CNSA, estimant que le dialogue s'impose comme la seule voie de sortie pour régler la crise multiforme qui gangrène le pays. Cette institution s'est toujours inscrite dans cette démarche, conformément à l'accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa et à sa loi organique. Elle a à cet effet entrepris plusieurs actions dans le but de sauvegarder la cohésion et l'unité nationale.
Pendant ce temps, la mission des bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie poursuit à Kinshasa ses consultations ce mardi après avoir échangé hier avec la majorité et l'opposition parlementaire ainsi que la société civile. Si les députés de l'Union sacrée ont insisté sur des sanctions à infliger au Rwanda pour son agression contre la RDC, l'opposition, elle, pense que la crise est plutôt interne et devrait être résolue par un processus de Kinshasa. Que pensent les différentes composantes de la société civile reçue hier par la mission de l'APF, Michel Kifindangoy?
Au cœur des discussions avec la délégation de l'APEF, la CENCO et l'ECC présentent l'importance du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble comme solution à la crise sécuritaire dans l'Est. Abbé Georges Kalenga.
Nous avons souligné l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs qui peut aider vraiment à ramener une paix durable et éradiquer tant de crises que nous connaissons depuis plusieurs années.
Cependant, la plateforme des confessions religieuses, la CIME, décrit le silence de la francophonie face à la résurgence des hostilités dans l'Est. Elle propose par ailleurs une initiative pour la paix. Pasteur Évariste Ejiba.
Nous avons mis sur pied une initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. Nous avons besoin de l'inclusivité parce que la paix, on ne la fait pas seule. La paix, nous la faisons avec tout le peuple congolais.
L'opposition parlementaire, les femmes du CAFCO et le Conseil national de la jeunesse expriment également leur ras-le-bol face à cette situation qui perdure et appellent à un dialogue national inclusif pour la paix.
Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations. C'est le thème de la 62e journée de l'Union africaine célébrée le 25 mai. À cette occasion, le président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique de Madagascar, CSM, le cardinal Fridolin Ambongo, adresse un message de paix, de justice et d'amour aux dirigeants et populations africains. Se ralliant à la commission de l'Union africaine, il attire l'attention sur l'urgence du besoin de justice pour l'ensemble des peuples africains du continent, de ses îles et de la diaspora. Emmanuel Elamégie.
Le cardinal réitère sa préoccupation face aux défis urgents auxquels le continent africain et ses populations sont confrontés, notamment l'injustice, le terrorisme, les conflits, la pauvreté, les questions d'éducation, des soins de santé, des dialogues interreligieux, d'écologie, des réfugiés et des personnes déplacées, de traite des êtres humains, pour ne citer que ces mots. Selon la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, les conflits contemporains et les situations de crise en Afrique ont forcé des milliers de personnes à fuir pour échapper à la souffrance, aux violations des droits de l'homme et à la famine. Et malheureusement, les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, subissent les violations des droits de l'homme les plus flagrantes dans les conflits. En tant qu'Église, famille de Dieu, en Afrique, souligne le président de ce symposium, qui se déclare convaincu que les dirigeants africains accorderont une grande attention aux appels et aux exhortations pastorales du pape Léon XIV qui, suivant les traces de son prédécesseur le pape François, renforce l'engagement de l'Église en faveur de la justice, de la paix et de la dignité de tous les peuples, en particulier les pauvres, les marginalisés et ceux qui souffrent des conséquences des conflits, de l'inégalité et de la négligence.
Les items de l'examen d'État hors session sont déjà disponibles à Bukavu. Confirmation de l'inspection provinciale de la province éducationnelle Sud Kivu 1 qui en a assuré l'expédition. La session dont le démarrage est prévu les 2 juin prochains va se dérouler dans un contexte particulier au Sud Kivu. Les activités scolaires sont suspendues dans certaines écoles à cause de l'insécurité et aussi la grève des enseignants non payés depuis l'occupation d'une majeure partie de la province par l'AFC M23. Ronéline Tibonera.
L'acheminement des carnets d'items des épreuves hors session des examens d'État à Bukavu rassure les finalistes de la province éducationnelle Sud Kivu 1. Ces derniers sont restés longtemps dubitatifs quant à la passation de ces épreuves d'État à cause de la rupture administrative entre Kinshasa et une grande partie de la province du Sud Kivu. Le directeur provincial de l'enseignement au Sud Kivu affirme que le transport de mal a été rendu possible grâce à leur partenaire UNICEF et l'ONG World Vision. L'UNICEF a assuré les transports de Kinshasa via Beni Goma jusqu'à Bukavu, alors que World Vision en acheminera vers les centres de passation dans les territoires d'Ijui, Kalehe et Bourale à Walungu. Dans l'entretemps, quelques écoles ont fermé leurs portes à cause de la grève des enseignants. Dans le territoire de Mwenga, par exemple, les enseignants réclament le paiement des arriérés des 4 mois de salaire.
Les malles des items de l'examen d'État ainsi que celles de l'ENAFEP sont également arrivées à Goma depuis le dimanche 25 mai. C'est grâce à l'UNICEF qui a acheminé ces items et qui les a remis aux autorités provinciales dans les zones occupées. Pour une partie du territoire de Rutshuru, cependant, une semaine avant la tenue de la session préliminaire de l'examen d'État, certains élèves se disent préoccupés par la situation sécuritaire instable. Il déplore déjà les conditions difficiles dans lesquelles il prépare ses épreuves. Les parents de ses élèves plaident pour le renforcement de la sécurité pendant cette période. C'est notamment dans la chefferie de Buito qui enregistre des affrontements récurrents entre les rebelles et les Wazalendo, situation qui occasionne un déplacement massif de la population. Rappelons que ces épreuves hors session débutent déjà le 2 juin et iront jusqu'au 9 juin prochain, comme prévu sur le calendrier scolaire. Le ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Raissa Malou, a lancé hier lundi à Kinshasa l'atelier national sur l'élaboration d'une politique et d'une stratégie d'intégration des technologies de l'information et de la communication TIC dans le système éducatif congolais. Cette session vise à équiper 60% des écoles du pays en dispositifs numériques d'ici à l'an 2029. Explication Blaise Ndongala Mayanda.
En présence de ses collègues des postes de télécommunications et du numérique, la ministre Raissa Malou insiste sur la nécessité de bâtir une stratégie cohérente, inclusive et adaptée aux réalités locale. À travers cette démarche, elle exprime la volonté du gouvernement de garantir à chaque élève congolais un accès équitable à une éducation connectée et de qualité. Ce forum attend également définir des grandes orientations pour une intégration durable des technologies de l'information et de la communication dans les programmes scolaires et les infrastructures éducatives. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan sectoriel de l'éducation et dans les engagements pris par les gouvernements souminois qui se proposent de moderniser les systèmes éducatifs congolais et mieux préparer la jeunesse aux enjeux du 21e siècle. Le même jour, le ministère de l'Éducation nationale a publié sur son compte X les frais des épreuves certificatives 2024 et 2025 dans les différentes provinces du pays. À Kinshasa, par exemple, les tests nationaux d'orientation scolaire et professionnelle revient à 26 000 francs congolais, alors que la session ordinaire de l'examen d'État à 31 000 francs congolais.
Début hier lundi à Kinshasa des travaux d'évaluation des recommandations de la 11e session de la conférence des gouverneurs tenue en novembre 2024 à Kalemi dans le Tanganyika. Pendant 3 jours, des experts nationaux et provinciaux examinent les différentes possibilités de mise en œuvre de ces recommandations, parmi lesquelles le parachèvement des chantiers et des infrastructures du programme de développement local des 145 territoires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a lancé ces travaux, appelle à un diagnostic objectif. On écoute Jacquemin Chabani dans ses propos recueillis par Grâce Amzati.
Cet atelier est une opportunité que vous devez saisir afin d'examiner avec précision et objectivité le niveau d'exécution de ces recommandations. Il s'agit effectivement de vérifier la concrétisation des actions menées et de jauger à quel point les recommandations émises lors de la 11e session ont été exécutées et d'évaluer leur impact et leur efficacité sur terrain. Il s'agit aussi de responsabiliser les acteurs de mise en œuvre et inciter les responsables à rendre compte de leurs actions menées. Il s'agit enfin d'améliorer et promouvoir les acquis et réajuster les stratégies. Cette façon d'agir garantira ainsi une compréhension partagée des politiques publiques et tiendra compte des réalités spécifiques des provinces.
Notons que ces assises préparent la 12e session de la conférence des gouverneurs qui devra se tenir du 10 au 13 juin 2025 à Kolwezi dans la province du Lualaba sous le thème « La santé, facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces ». Au Kasaï oriental, 20 femmes candidates potentielles, parmi lesquelles les élus et non-élus, les femmes nommées ou honoraires, les filles leaders d'opinion évoluant dans les secteurs informels, devront bénéficier dès demain à mercredi de la subvention pour les activités pouvant les mettre en contact permanent avec leur base électorale. Ces 20 femmes ont été retenues dans le programme chez Lidz Ndeke de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES qui consiste à accroître la participation politique et électorale de la femme dans 6 provinces pilotes. Il s'agit des provinces du Kasaï, Kasaï oriental et central, Tchopo ainsi que les provinces du Nord et du Sud Kivu. À cet effet, Martial Bundui, il est un des coordonnateurs du programme chez Lidz Ndeke de IFES, venu pour superviser les activités, s'exprime au micro de Esther Ndalafina.
Et là, nous sommes dans la ville pour lancer l'implémentation des activités effectives sur le terrain. Activités durant lesquelles les femmes vont implémenter des activités qui sont dans leur plan d'action individuel. La deuxième phase va commencer avec les subventions que la Fondation internationale des systèmes électoraux fera pour les femmes. La prochaine phase, justement, consiste à implémenter des activités de plan d'action individuel. Parce que lors de la formation, on a aidé les femmes à mettre en place un plan d'action qui leur permettrait d'améliorer leur influence et leur image dans la société. Dans ces plans d'action, il y a un certain nombre d'activités de sensibilisation notamment, et il faut des moyens pour cela. Donc nous sommes là pour leur donner des moyens de base, des moyens préliminaires, parce qu'il s'agit d'une période pilote, pour leur permettre d'implémenter ne serait-ce que 30% des activités de leur plan d'action.
Actualité internationale.
Au Soudan, le choléra a fait au moins 172 morts en une semaine, selon le ministère soudanais de la Santé. L'État de Khartoum concentre à lui seul 90% des nouvelles infections. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, 90% des stations de pompage d'eau sont hors service. Le Soudan est divisé depuis avril 2023 par la lutte sanglante pour le pouvoir que se livre le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée et dirigeant de facto du pays depuis un coup d'État en 2021, et son ancien bras droit Mohamed Hamdan Daglo, commandant des paramilitaires des forces de soutien rapide FSR.
L'invité.
Le gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Kakule-Somo, parle des avancées et des défis dans la traque de groupes armés locaux et étrangers dans l'est de la RDC. C'était hier à l'occasion à Bunia de la deuxième phase du programme Ensemble pour la paix et la gouvernance sécurité dans les provinces de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. Il revient sur les mécanismes mis en place avec son homologue de l'Ituri pour stabiliser les deux provinces sous état de siège. Le général Kakule-Somo s'entraîne avec Ezekiel Mouzalia.
Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, Évariste Somo, bonjour. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici à Bunia, où vous venez de prendre part à ces séminaires sur la gouvernance sécuritaire?
La province du Nord Kivu est une province très sinistrée. Vous connaissez l'état des guerres que nous avons partout, mais particulièrement au Nord Kivu et bien sûr aussi le Sud Kivu, dont même une partie contrôlée par les ennemis de la République. Donc le programme sur la gouvernance sécuritaire qui a fait que nous venions ici sur invitation de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province de l'Ituri pour prendre part à ces assises, nous a permis de raffermir encore nos échanges, nos expériences, notamment l'expérience du Nord Kivu, où non seulement faisons face à une guerre totale, mais aussi groupes armés et autres. Ces échanges-là vont donc nous conduire à mieux stabiliser notre situation et renforcer la participation de notre population à la gestion de sa propre sécurité.
Quel est l'impact des démarches diplomatiques des hauts niveaux qui sont en train d'être menées pour l'amélioration de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu?
Actuellement, nous sommes en train de cheminer vers la paix. Nous sommes informés tous des démarches qui sont menées à haut lieu pour que la guerre s'arrête. Nous espérons que ces efforts-là vont être capitalisés et aller vraiment vers la fin de la guerre. Le Nord Kivu particulièrement a besoin de cette situation-là pour que nous nous lancions dans les efforts de reconstruction comme ce que nous venons de constater ici, par exemple, à Ituri, où la transformation est tout simplement palpable. Sans la paix, tout cela ne peut pas arriver et donc c'est ça mon souci.
La situation sécuritaire reste encore volatile, entre autres sur la route Boga, Tchabi, Komanda, Luna jusqu'à Beni. Et cela impacte vraiment le trafic sur la route. Avec votre homologue de l'Ituri, quel mécanisme mettez-vous en place pour établir la sécurité des usagers sur ces différents axes routiers?
La province de l'Ituri et la province du Nord Kivu sont les deux provinces sous état de siège. Donc, au-delà de la solidarité entre les provinces, nous avons une collaboration tout à fait particulière qui fait que nous sommes en train de réfléchir ensemble et même de concentrer des efforts que je ne veux pas étaler ici tout de suite pour que cette route-là puisse aussi reprendre les activités. Je crois que les travaux sont déjà en cours et nous travaillons d'une façon mutualisée, même avec nos partenaires, pour que la sécurité revienne totalement. Les deux routes, donc Boga et Komanda Luna, sont des axes importants que nous devons absolument ouvrir et sécuriser.
Les deux provinces bénéficient de l'appui de l'armée ougandaise dans le cadre de la mutualisation des forces. Quelles sont les avancées observées, surtout sur le plan sécuritaire, mais aussi les défis qui restent encore à relever pour une paix durable dans cette partie de la RDC?
Les opérations militaires entre le secteur opérationnel de l'Ituri et le secteur opérationnel Sukola 1 Grand Nord sont mutualisés au niveau des FRDC d'abord, mais aussi ensemble avec nos partenaires de l'UPDF. Nous pouvons vous rassurer que les choses sont en train de changer. Et très très bientôt, les gens vont circuler sur cette route tranquillement. Les opérations ont été relancées il y a très peu. Et les résultats, nous allons vous les annoncer dans quelques jours. Les groupes armés que nous avons ici, heureusement, sont des Congolais. Les Congolais continuent à prendre les armes pour tuer leurs compatriotes à ce jour. Ce serait vraiment très triste de voir qu'on continue avec cette mentalité. C'est pour cela que je les appellerai tous à saisir la voix de la raison, qui viennent déposer leurs armes, qui viennent sur la table de discussion, que nous nous parlions entre nous, Congolais, que les armes se taisent et le développement que je viens de constater ici à Bunia peut s'étendre partout en Ituri et c'est pour le bien de tout le monde.
Évariste Kakule Somo, je rappelle, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.